BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, F. Chégaret et Sylvain Aurébi.
Et c'est la dernière émission de la saison avant la grande finale qui verra s'opposer donc les deux créateurs d'entreprises que vous avez préférés cette saison. Vous savez, celui qui l'emportera gagnera, comme le veut la tradition de cette émission, une campagne de communication gratuite, une campagne de pub tout simplement sur BFM, la radio de l'écho. L'an dernier, elle était d'une valeur de 100 000 euros. Alors on verra cette année, je sais pas, ça devrait être dans les mêmes eaux a priori. Hein. Voilà donc les deux derniers créateurs d'entreprise de l'année. Ils auront été combien ? 56 à venir cette année s'affronter.
Tout à fait, Nicolas Dose.
Quelle aventure quand même. On va commencer. Bonjour Eve.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sylvain Aurébi.
Bonjour Nicolas Dose.
Le président d'Orientis, les Técousmi et les machines à café Jura qui plaisent tant à Alain Madelin. La dernière fois, c'était fantastique. Il est sorti de ses gonds quand il a entendu le mot Jura. Ah, c'est les machines qu'il nous faut. Et Eve Chégaret, donc coach pour entrepreneurs et décideurs. Oui. Alors l'humeur du coach.
J'attends de proposer mes services à Alain Madelin, hein. Ça va peut-être lui plaire aussi, c'est pas exclu. Ah,
c'est pas coach pour ancien ministre. Hein.
Non, j'ai pas ça encore, mon actif.
Alors qu'on commence par l'humeur du chef d'entreprise, tiens.
Alors l'humeur du chef d'entreprise, je vais la refaire parce que je l'ai faite il y a quelques semaines et on est à la fin du mois de mai. Dans 15 jours, beaucoup de nos auditeurs vont ou devraient payer l'ISF et je leur dis surtout ne faites pas ça. Ne payez pas l'ISF, creusez les déficits publics et donnez votre argent aux entreprises. Il y a une loi, c'est une des meilleures lois que le gouvernement ait faite de juillet 2007 qui permet aux redevables de l'ISF de ne pas payer l'impôt, mais de le donner, l'investir.
De l'investir. On peut diminuer son ISF jusqu'à 75%
dans des PME. Les PME ont besoin de cet argent. Elles sont de moins en moins financées par les banques, à qui je tire les oreilles une nouvelle fois à la radio. Et je dis, il faut donner votre argent aux PME qui en ont besoin, qui vont pouvoir aider l'économie à se développer. Et vous, en tant que citoyen, plutôt que d'aller payer cet argent et essayer de combler sans succès le trou du déficit public, donnez-le aux PME. Il vous reste 15 jours pour le faire. N'hésitez pas. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'occupent de ça. Je le refais. Moi, je l'ai levé. J'ai levé 2,5 millions l'année dernière pour Kousmiti. Je vais recommencer cette année avec Audacia, dont je vous ai déjà parlé. Il faut absolument que ces fonds aillent s'investir dans les PME.
On ne le dira jamais assez. F. Chégaret, l'humeur du coach.
Quelle énergie! Écoutez-moi, je
généralement,
vais vous...
sur les sujets banque, financement des entreprises, Sylvain, il est plutôt partant. Oui, ça l'active pas mal. Et puis, il y a plein d'autres thèmes sur lesquels je pourrais le lancer, mais là, il nous faudrait toute l'heure. Hein, donc.
Alors, moi, je voudrais vous dire un mot sur la reprise d'entreprise. On ne reçoit pas de repreneurs d'entreprise chez BFM Academy, des créateurs depuis des années. Et pourtant, j'aimerais beaucoup que des repreneurs viennent aussi mouiller leur chemise dans notre studio. La reprise d'entreprise, c'est pas forcément un parcours combattant comme celui du créateur d'entreprise. Et pourtant, c'est souvent quelque chose qui prend du temps, Quentin, vous nous en direz deux mots peut-être, qui demande beaucoup de ressources, beaucoup de conseils. Et je voulais faire un petit coup de cœur pour une association qui s'appelle le CRA, qui est les cédants et repreneurs d'affaires, qui coach. Ce sont d'anciens dirigeants d'entreprise qui accompagnent des gens qui veulent reprendre une entreprise. Ils accompagnent aussi les cédants d'ailleurs. Ce sont des gens formidables qui donnent énormément de leur temps et toute leur expertise pour ces gens qui veulent reprendre une boîte. Donc je trouve qu'ils méritaient un petit coup d'éclairage.
Quand elle parlait de Quentin, elle pensait à Quentin de Surmont. Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Et face à vous aujourd'hui, Mariam Ingar. Bonjour Mariam.
Bonjour à tous.
BFM Academy 2010, uniquement sur BFM Radio.
Allez, Mariam Ingar, première candidate du jour. Qui est-elle, F. Chégaret ? Après, je vous présente son entreprise.
Mariam, vous avez 27 ans. Votre entreprise est située à Paris. Alors, vous êtes diplômée de l'EDEC en 2006. Dès vos études, vous commencez à intervenir auprès de grandes marques de cosmétiques de luxe. En 2003, 2004, vous intégrez Unilever Best Foods dans un service d'organisation d'événements. Et dès la fin de l'EDEC, vous montez votre première activité. Ça s'appelle Spark Service et c'est une activité d'événementiel. Votre première entreprise a son actif de belle réalisation aujourd'hui. On aura remarqué en particulier un dîner de gala avec une vente aux enchères nommée Indira au profit de l'UNICEF et des enfants en Inde. Vous êtes d'ailleurs d'origine indienne. Cet événement vous tenait particulièrement à cœur. Et puis, vous auriez pu continuer ainsi, vous faire une place de choix dans ce métier très concurrentiel de l'organisation d'événements. Mais une idée vous est venue à votre sœur et vous. Il faut dire que votre sœur Sarah et vous-même, vous êtes des accros, des petits dîners savoureux entre amis. Devant les agendas surchargés des uns, l'offre pléthorique des réseaux sociaux d'un autre côté, il fallait trouver quelque chose. Quelques mois de développement plus tard, l'offre My Private Dinner était née.
Voilà, donc le site, on a décidé qu'on le prononçait à la française, hein, myprivatedinner.com, c'est en un seul mot, mais c'est bien en anglais que ça s'écrit. Il se moque de moi, c'est une cruauté. Il n'y a aucune raison d'ailleurs, j'aimerais vous y voir. Donc vous organisez des dîners privés, hein, c'est un peu le club des gourmets en ligne, le Facebook des gastronomes, ce ne sont pas des apéros géants, ce sont des dîners pas géants pour l'instant, mais peut-être un jour. Donc c'est le premier réseau sociable autour d'une table. La première page propose un choix. Soit je veux participer à un dîner organisé par un membre de My Private Dinner, soit je veux organiser un dîner et inviter des membres de My Private Dinner. Comment faire ? 4 étapes, je m'inscris gratuitement en ligne, je consulte et je choisis l'événement auquel je souhaite me rendre. 3e étape, je paye en ligne ma participation. Là, je m'arrête tout de suite, Mariam Ingar. Ce prix qui accompagne l'événement, c'est un prix qui est fixé par la personne qui l'organise.
Totalement choisi par l'hôte, effectivement.
Donc il fixe son prix.
Exactement. D'accord. Il fixe son prix et c'est effectivement le prix que lui-même va recevoir ensuite pour les frais du dîner.
D'accord. Il y avait sur le site, là, quand j'ai préparé cette petite fiche, une offre à 65€. Alors, c'était un truc un lieu secret, vous savez, des trucs un peu space, là, qui a priori réservent beaucoup de surprises. Mais bon. Et donc, 4e partie, ben, je me rends au rendez-vous. J'aurai l'adresse du rendez-vous par SMS ou par email. 7383 membres au dernier pointage sur My Private Dinner. Je me suis demandé quelle était la motivation de ceux qui organisent un dîner et de ceux qui se rendent à un dîner, honnêtement. L'envie de se retrouver avec des inconnus autour d'une table, peut-être pour manger correctement, et encore on n'en sait rien. Enfin voilà, je me suis demandé pourquoi y aller et pourquoi les organiser.
Alors, My Private Dinner est un site communautaire pour les passionnés de cuisine. Donc l'idée,
c'est que c'est vraiment qu'il y a de la gastronomie derrière.
Ah oui, oui, oui. Oui,
parce que vous en savez que les gens qui proposent des dîners, ils savent faire la cuisine.
Parce que je l'ai testé. Non, nos membres, en fait, sont des vrais gastronomes gourmets. Alors, certains savent mieux cuisiner que d'autres. Certains aiment la cuisine exotique. D'autres, le chocolat, le sucré, le salé. Enfin bon.
Il y a 7383 calés en cuisine, là.
Voilà, tout à fait.
Non, il y en a qui aiment
la cuisine des autres.
Voilà, dîner chez les autres.
Il y en a qui préfèrent dîner chez les autres. En tout cas, le site réunit les passionnés de cuisine, donc pour principalement deux choses. D'abord, effectivement, pour partager une affinité. Une passion autour d'une bonne table, parce que l'idée c'est effectivement de se rencontrer soit entre inconnus et membres de My Private Dinner, soit entre amis et ses propres amis, parce qu'on peut effectivement faire des dîners avec ses propres amis.
Mais dans ces cas-là, moi je leur envoie un mail directement, je passe pas par My Private. Voilà.
Je vous expliquerai après, on a plusieurs fonctionnalités.
Il y a un loup quelque part, il y a un truc, c'est pas possible. Il y a un truc.
Et le deuxième bénéfice du site, c'est effectivement que vous faites partie du réseau et que vous bénéficiez à travers My Private Dinner, sous forme de newsletter qu'on envoie à nos membres toutes les semaines, d'astuces de grands chefs, de recettes originales. Avec des produits de saison et surtout de privilèges avec nos partenaires.
Donc je ne vais pas sur votre site parce que je cherche une petite amie, mais bien parce que j'aime les bonnes tables.
Vous pouvez aussi y aller parce que vous cherchez une petite amie.
Bah, c'est la question que j'allais moi vous poser. Est-ce que tout ça se transforme en blind
femme,
date
en fait.
Finalement oh, est-ce que c'est drôle,
oh, oui,
c'est
oui, dans Aurélie,
oh là là, c'est
aïe,
honteux. Je ne relève non, pas.
On a différentes sortes de membres. On a des célibataires, mais on a la possibilité aussi d'organiser des dîners de couple. Et d'ailleurs, on a des membres qui organisent toutes les deux semaines, je crois, le dîner presque parfait, qui se retrouvent entre couples et qui font des petits concours chez eux.
Attendez, vous voulez dire qu'il y a combien de couples à la fois ?
Ça fait 3 couples à peu près.
Ah, d'accord.
Ils étaient 6.
Oui, oui, oui. Ah, oui.
Et donc, j'organise un dîner, c'est chez moi que ça se passe.
Chez vous ou ailleurs. Après, c'est à vous de voir. Vous avez d'accord. La possibilité. Ensuite, c'est vous qui mettez l'adresse que vous souhaitez. Et l'adresse, évidemment, n'est pas visible par les internautes. Elle est envoyée uniquement par SMS à ceux qui ont confirmé, payé pour l'événement et qui sont donc.
Et donc, à qui payent-ils ? Ceux qui payent à vous et vous ?
Nous, on reçoit effectivement, parce que c'est impossible matériellement d'envoyer les participations directement sur les comptes des membres. Donc, on reçoit la totalité et on renvoie la totalité à nos membres le lendemain de l'événement.
D'accord. Et qui vous paye ?
Alors. My Private Dinner est un site totalement gratuit.
Oui, ça j'ai compris, on s'inscrit gratuitement, on paye sa participation.
Donc le modèle économique, c'est un modèle gratuit, c'est-à-dire que nos membres s'inscrivent gratuitement. Le modèle économique est ailleurs, c'est-à-dire que nous, avec cette base de membres, on offre des services aux entreprises. Et on a effectivement deux types de clients. Premier client, ce sont des petites marques qui nous contactent parce qu'elles ont besoin de créer du trafic en boutique sur leur point de vente. Et donc nous, grâce à nos membres, on a la possibilité effectivement de cibler parce que nos membres sont très actifs. Ils remplissent des formulaires en ligne
vous
sur leur personnalité gourmande. Donc
connaissez.
Je les connais parfaitement. Je sais s'ils aiment le sucré, le salé, le chocolat, s'ils préfèrent les pâtes, quel type de marque, etc.
D'accord.
Donc ensuite, les petites marques viennent nous voir et je peux extraire ensuite ses membres et proposer une offre spécifique à mes membres avec cette petite marque pour créer du trafic sur le point de vente.
Vous pouvez les citer pour qu'on voit un petit peu de quelle marque il s'agit ou c'est confidentiel?
Non, c'est confidentiel. D'ailleurs, on ne le met pas majoritairement en ligne pour la plupart.
Il y a des partenaires sur le site, il me semble.
On a des partenaires en ligne avec qui.
Mariam, si j'ai bien compris, vous monétisez la connaissance de vos membres auprès d'entreprises.
Exactement.
Ils sont d'accord, les membres? Ouais. Ils cochent une petite case
Ils sont totalement d'accord. Et effectivement, ils savent, parce que vous avez sur le site un coche tout simple pour recevoir les offres des partenaires. Si vous l'avez accepté, vous faites partie effectivement de ceux qui bénéficient donc de réductions, de coupons, de remises, de soirées privées, de dégustations privées, etc.
Et
avec
si
les partenaires.
Et si on l'a pas accepté, c'est un membre c'est un boulet pour vous, ce membre.
Il pourra pas, malheureusement, alors pas pour nous, mais pour lui, malheureusement, il aura pas accès à ces événements.
Bon. Oh, ce qu'elle le dit bien.
Allez-y là.
Et alors, vous avez combien de partenaires aujourd'hui? Vous voulez pas nous donner les noms, mais il y en a combien?
Aujourd'hui, on a une dizaine de partenaires récurrents. Donc avec qui on organise des petites dégustations dans des petites boutiques d'huile d'olive, des chocolateries équitables, etc. Nous avons d'ailleurs organisé une dégustation privée avec une nouvelle chocolaterie et macarons, parce qu'ils en font aussi, où on a effectivement organisé une dégustation de petites pâtisseries très sympa, où nos membres sont venus, et avec une offre privilégiée sur ensuite l'achat en boutique le soir de la dégustation.
Vos membres se sentent faire part d'une communauté en particulier ou viennent vraiment à titre très perso, très individuel?
Alors au début, ils viennent à titre individuel et aujourd'hui, nos nouveaux membres, les membres qui s'inscrivent aujourd'hui, c'est vraiment par le bouche à oreille. Donc ça se crée au fur et à mesure, c'est-à-dire que les membres qui ont déjà participé, qui sont déjà venus, soit qui ont participé, soit qui ont organisé des événements, en parlent autour d'eux et vraiment c'est le bouche à oreille. Donc c'est comme ça qu'on crée vraiment notre réseau de gourmets.
Vous êtes vraiment installé sur les Champs-Élysées?
Oui.
Ou c'est une boîte postale fictive?
Alors, je ne vais pas donner l'adresse, mais effectivement, on a une boîte postale, mais j'ai un bureau un petit peu plus haut qui est sur les Champs.
Là, à cet endroit-là.
Ouais, tout à fait.
BFM Academy 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en eux?
Non, parce que je lui posais la question dans la mesure où Quentin de Surmont, qui va suivre dans quelques instants, il est aussi sur les Champs-Élysées. Je m'étais demandé si Eve avait fait un casting spécial Champs-Élysées.
La semaine prochaine, je fais Avenue Montaigne.
Le Facebook des amateurs de bons repas, donc le site qui met en relation ceux qui veulent se retrouver autour d'une table lors de dîners privés, c'est une entreprise qui s'appelle www.myprivatedinner.com. On marque une pause et on fait la connaissance de Quentin de Surmont avec Péplum.
Imaginez que chaque jour commence au volant d'une BMW série 3. Beauté des lignes, sobriété du moteur diesel, agrément du système de navigation. Et jusqu'au 12 juin, pendant les offres éphémères du réseau occasion BMW Premium Selection, elle ne coûte que 300 euros par mois. La joie dure longtemps. Les offres, elles, sont éphémères.
Location avec option d'achat. Premier loyer majoré à la livraison de 2500 euros, suivi de 35 loyers de 300 euros par mois sous réserve d'acceptation par BMW Lease. 100 BMW 318 D Confort récente, disponible jusqu'au 12 juin dans les concessions participantes. Conditions de l'offre sur bmw-occasion.fr.
Swing présente le Autoprogramme de Paris 2010 avec BFM Radio. Organisé du 7 au 10 juillet, le plus prestigieux programme français se déroulera sur 4 parcours d'exception. Pic, Fontainebleau, Stade Français Courson et RCF La Boulie. Venez partager les parties de grands joueurs professionnels avec vos amis, clients, prospects ou collaborateurs. Renseignements et packages entreprises disponibles auprès de Swing, agence spécialisée dans l'événementiel de Golf Corporate au 01 41 22 96 00 ou sur swing.fr.
Un message de Frédéric Simotel, rédacteur en chef de 01 Informatique.
Cette semaine dans 01, retrouvez les coulisses technologiques de Roland-Garros, de la télé 3D à la réalité augmentée sur mobile. Vous saurez tout des dernières applications multimédia, dont la plupart pourraient d'ores et déjà intéresser votre entreprise. Au sommaire aussi dans 01, un dossier complet sur l'emploi en région Provence, Alpes-Côte d'Azur et Languedoc. Découvrez les entreprises qui recrutent.
Retrouvez 01 Informatique, le leader de l'information high-tech, chaque jeudi en kiosque ou en vous abonnant sur www.kiosque01.com.
BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, F. Chégaret et Sylvain Aurébi.
Et donc Maria Mingard, notre première candidate cette semaine, face à Quentin de Surmont et son entreprise Peplum, elle aussi installée sur la plus belle avenue du monde. F. Chégaret,
oui, c'est bien moi.
Vous lui dites un peu qui est Quentin de Surmont ? Et puis après,
avec
je vais vous parler de Peplum.
Alors Quentin, vous avez 42 ans, votre entreprise est installée à Paris, également sur les Champs-Élysées, on le disait à l'instant. Alors vous, vous faites le SC Lille, et puis en 90, vous arrivez chez Trois Suisses, en Espagne, comme directeur du marketing. En 95, on vous retrouve directeur général de Trois Suisses en Angleterre. Et puis en 2001, changement de cap, c'est l'arrivée chez Disneyland comme directeur marketing et vente France. Et pendant toutes ces années, le rêve d'entreprendre pour vous, à votre compte, ne vous quitte pas. Il faut dire que vous êtes d'une de ces familles d'entrepreneurs textiles du Nord. Alors vous auriez peut-être ça dans le sang. Vous quittez Disney pour acheter une entreprise. Vous cherchez, vous trouvez un tour opérateur à reprendre. Votre expertise en la matière chez Disney vous rend confiant. Et puis, le jour dit, la signature ne se fait pas. Ça arrive, hein, quelquefois. Entre-temps, vous aviez déjà réfléchi à une offre de voyage exclusif. Alors, vous vous lancez fin 2007. Et puis, vous aviez déjà trouvé le nom de Peplum. Ces films-là vous ont tellement donné envie de découvrir l'histoire que ça vous a inspiré.
Quentin, est-ce que vous êtes, vous, physiquement sur les Champs-Élysées ou est-ce que c'est juste une affiche ?
Nous avons un bureau sur les Champs-Élysées au 76.
Avec des vrais gens.
Avec des vrais gens, bon. Des vrais bureaux,
d'accord.
Des téléphones et quelques fenêtres.
Peplum.fr, c'est l'adresse internet. C'est une conciergerie du voyage. L'entreprise crée, gère sur mesure, totalement sur mesure, les voyages familiaux de ses clients. Il y a peu de clients, mais il y a que visiblement des très, très, très gros clients, si j'ai bien compris. C'est le Family Travel Office, le groupe service des vacances en famille, voyagiste privé. Alors très vite, sur le site apparaissent des mots comme villa, chalet, jet, hélicoptère, yacht, croisière, golf, le ton est donné. Puis il y a cette formule un peu plus loin, Peplum vous propose le monde en privé. Wouah ! Il y a des promesses qui sont faites quand même, que tout dans le voyage sera réalisé sur mesure, totalement à la carte. Il n'y a pas que la date de départ, bien sûr, ça va bien plus loin, vous allez nous raconter que le plus possible, le voyage va sortir des sentiers battus, que le voyage sera forcément mémorable. Alors ça, peut-être, oui, effectivement, que le service sera totalement irréprochable. Qu'est-ce qui se passe à l'étranger si un de vos clients a un problème sanitaire, des papiers perdus, des problèmes classiques? Peut-être après, plus loin, s'il vous dit qu'en cours de route, il est déçu, puisque visiblement, on a l'impression qu'il ne peut rien se passer, rien ne lui arriver. Est-ce que tout est bordé, intégralement bordé?
Alors, on garantit qu'on sera toujours là pour aider nos clients. Il y aura forcément des externalités, il y aura forcément des problèmes. Faire un voyage à l'autre bout du monde, vous imaginez, c'est quand même inouï comme expérience. Donc, ça peut toujours arriver. Nous, ce qu'on garantit, c'est qu'on sera là, à tout moment, pour aider à résoudre les problèmes.
Je vous appelle depuis Hanoï, j'ai perdu mon passeport.
On s'en occupe. On est là, on
se met
en lien.
Ouais.
Alors on se met en lien avec vous, avec l'ambassade, avec votre famille en France. On essaie de récupérer les photocopies. On se met en lien avec toutes les personnes qui vont vous permettre sur place d'avoir la solution.
Il y a pas de limite à votre service.
Il y a pas de limite.
Là, je suis
dans la limite de la légalité.
Je suis actuellement au Kenya. C'est pas du tout ce que vous m'aviez dit. Ça va pas. Moi, annoncer un safari. Non, mais je suis pas content. Il me reste 15 jours de vacances et ça me plaît pas. Alors.
Bon, c'est très bien. Donc on va revenir au début. On va revenir au tout début. Notre concept, on peut le résumer...
Il ne répond pas, mais je vais y répondre.
Ça ne peut pas se produire, ce que vous me dites. Je vais y répondre. Notre concept se résume dans 10-10-10. Nous avons 10 fois moins de clients que le plus luxueux des tours opérateurs français. Nous avons des paniers moyens 10 fois plus gros.
Combien le panier moyen ?
Le courrier, 40 000 euros, ça oscille entre 10 000 et 150 000 euros.
Pour une famille ?
Pour une famille. Nous avons donc, 10-10, les moyens de passer 10 fois plus de temps avec vous, à préparer votre voyage et à vous accompagner pendant ce voyage, à être présent. C'est très important.
Voilà, 10 fois moins de clients, des dossiers 10 fois plus importants, 10 fois plus rémunérateurs et 10 fois plus de temps passé à servir les clients. C'est la règle des 3-10.
On va préparer le voyage avec vous et ça veut dire que vous saurez exactement ce que vous allez faire avec nous.
Bon, on ne sera donc pas déçus. Cette dernière possibilité n'est pas possible. 50 clients en 2009, donc on imagine du businessman qui a quand même du pouvoir d'achat, on va dire, et qui ne peut pas organiser ses vacances en famille et donc décide de les sous-traiter à un spécialiste. Comment ça se passe généralement? Ils vous appellent, ils vous disent il faut que vous me trouvez un truc sur 15 derniers jours de juillet et puis après vous faites des propositions, ou alors ils vous disent moi je veux aller par exemple au Kenya justement. Jusqu'où vous allez créer le voyage?
Alors les briefs sont très différents. D'abord, ce ne sont pas des voyages à la carte. Nicolas, vous avez mentionné le mot à la carte. Pas du tout. Ce sont des voyages sur mesure. C'est très différent. Tout est créé à la demande à partir de zéro.
Il n'y a rien à la carte.
Nous vendons
chaque
du service.
Chaque menu est unique.
Nous ne vendons pas des produits, nous n'avons pas de brochure. Rien n'est pré-packagé. Tout est fait à partir de zéro sur la demande des clients. Maintenant, les demandes des clients sont toutes très différentes. Nous avons des demandes très précises, des briefs hyper pointus, quasiment minutés. Et nous avons des clients qui nous demandent tout simplement, qui nous disent, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ci, ça, j'ai pas tellement envie de le faire, qu'est-ce que vous pouvez me proposer ? Et là, donc, commence le travail qui va être fait avec nos collaboratrices. Je ne suis pas l'expert des voyages, mais j'ai dans l'équipe des personnes qui sont très très douées pour ça, qui ont beaucoup, beaucoup...
Qui viennent de quelle expérience ?
D'années d'expérience.
Je ne sais pas si vous, vous leur disiez ça, mais... Non, mais elles viennent de tour opérateur, elles viennent de cet univers-là.
Voilà, elles se sont formées chez des tour opérateurs, dans des agences. Elles ont, en général, quatre métiers réunis en un. La capacité à produire des voyages un peu partout dans le monde, elles ont... pas mal d'expérience, comme je vous l'ai dit. La capacité à vendre, à traiter une relation avec des clients qui sont exigeants, parfois pas très faciles, et ça, c'est important. La capacité à rendre un voyage un peu événementiel, parce que finalement, ce que nous faisons...
Vous dites que c'est inouï, que c'est mémorable, oui.
Alors, ça dépend. On fait tout, en fait. C'est-à-dire que qui peut le plus, peut le moins. On va toujours essayer de proposer des voyages un peu inoubliables, mémorables, en organisant des rencontres avec des notables dans les pays, en organisant des privatisations.
Ça, je trouve ça étonnant. C'est-à-dire que quelqu'un va avoir envie de rencontrer, par exemple, quelqu'un qui fait le même métier que lui, mais à l'autre bout du monde, quelque chose comme ça ?
Par exemple, ou rencontrer un homme politique local qui peut, avec qui il peut avoir une réflexion, ou alors rencontrer un dispensaire, aller voir un dispensaire, aller voir un business d'investissement socialement responsable sur place.
Quentin, donnez-moi un ou deux voyages dont, qui restent dans votre esprit, qui vous ont marqué, voire une ou deux exigences un peu incroyables quand même, pour qu'on voit jusqu'où vous allez dans le mémorable, dans l'inoubliable, dans le fait de céder aux caprices de n'importe quel client qui est le vôtre.
Alors, un voyage qui était assez incroyable, qui consistait à emmener une famille en Asie du Sud-Est. Une partie de ce voyage se passait donc à Angkor, et nous avons organisé la privatisation donc du musée Guimet quelques semaines avant le départ du voyage pour cette famille qui a pu rencontrer le conservateur de l'Asie du Sud-Est et découvrir des choses absolument incroyables sur l'histoire des pièces qui étaient présentes dans le musée et qui ont pu donc vraiment s'imprégner de cette culture.
Il a eu le musée pour lui.
Khmer. Oui.
Avant de partir.
Absolument. Et qui a pu s'imprégner de cette culture khmer avant de partir et donc de rendre cette visite des temples d'Angkor, de Bantesrey et de ces linteaux, de ce linteau découpé à la scie par Malraux qu'on retrouve au musée Guimet.
Musée Guimet qui est place Iéna à Paris, hein, pour ceux qui ne sont pas parisiens.
Ça donne un relief. Et je tiens à saluer Pierre-Baptiste, le conservateur.
Bien vu.
Voilà, il est formidable. Et donc ça rend vraiment. Ça donne du relief à la découverte d'un pays, ce genre de choses. Je parle de cette expérience-là, j'en ai déjà parlé, je peux difficilement parler de beaucoup d'expériences, je ne parle pas des clients, je ne parle pas des voyages en général, parce que vous imaginez la confidentialité que nous donnons à toutes ces choses.
Alors, parlons business, vous gagnez quoi et à partir de quand est-ce que vous êtes payé ? Supposez que je décide d'envisager un voyage avec ma famille, que je vous fais travailler, que je vous pose des tas de questions, qu'on commence à réfléchir à un parcours, à des avions, à des hôtels, etc. Puis finalement, je me dis, oh là là, c'est la crise, je ne vais pas partir. Je vous dois de l'argent, je vous ai payé quelque chose. Comment est-ce que vous êtes rémunéré dans ce cas-là et dans le cas où le voyage va jusqu'au bout ?
Alors, tout d'abord, nous sommes donc un tour opérateur, un voyagiste. Nous sommes un métier régulé, enfin qui l'était par le code du tourisme européen et français. C'est-à-dire qu'en fait, le client nous paye, nous payons les fournisseurs et vous partez en voyage. Donc c'est une économie assez simple, il n'y a pas de BFR. Bon, ça c'est le premier point. Ensuite, quand nous avons des demandes, très vite, en fait, on a une approche qui est progressive avec les clients qui nous contactent. Il est bien évident que notre modèle nous empêche de vous fournir un voyage totalement sur mesure à l'autre bout du monde pour 500 euros. C'est pas possible. Donc très vite, on va sentir quels sont les moyens et les envies de nos clients. À partir de là, il va y avoir une approche progressive qui va vous permettre de découvrir ce qu'on a dans les tripes, ce qu'on est capable de faire pour vous et qui va vous permettre d'avoir envie de continuer. Le cas échéant, nous pouvons, si effectivement il y a un peu trop de demandes, nous pouvons vous demander un fee de principe pour la création du devis. Mais c'est rare.
BFM Academy 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en eux ?
Voilà, peplum.fr, hein, le site qui organise, qui gère 100% sur mesure les vacances en famille de ses clients, tous de très gros clients. C'est une agence de voyage de luxe installée physiquement et réellement sur les Champs-Élysées. On marque une deuxième pause dans cette émission. On se retrouve d'ici quelques minutes avec les mouches du coach.
BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
BFM Weekend, midi 30. Les infos, Sarah Camus.
C'est un nouveau coup dur pour l'Espagne. L'agence de notation Fitch dégrade à son tour la note de sa dette souveraine. Elle passe d'un triple A à un double A+. L'agence Fitch justifie cet abaissement par les mauvaises perspectives de la croissance espagnole. Une décision qui a en tout cas plombé Wall Street. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 1,2%. L'euro, quant à lui, est repassé sous le dollar 23. À noter que la bourse de New York sera fermée lundi. Renault va rapatrier sur son site de Sandouville la production de son prochain utilitaire. Le ministre de l'Industrie l'a confirmé tout à l'heure. Christian Estrosi veut, dit-il, stabiliser l'emploi. Ce modèle est actuellement produit en Espagne et en Angleterre. En France, le nombre d'inscrits à Pôle emploi a encore progressé au mois d'avril. La baisse observée au mois de mars n'aura pas duré. Le mois dernier, le chômage a augmenté de 0,6%, soit 15 700 demandeurs d'emploi supplémentaires, ce qui porte à 2 700 000 le nombre de chômeurs en France. Les catégories les plus touchées sont toujours les moins de 25 ans, les seniors et les chômeurs de longue durée. La convention du Parti Socialiste sur le nouveau modèle de développement, elle se tient depuis ce matin à la Plaine Saint-Denis. À son arrivée, Martine Aubry a estimé qu'au PS, le bal des égaux est terminé et que le vrai travail commence en vue de l'élection présidentielle de 2012. BP continue ses opérations pour arrêter la fuite de pétrole dans le golfe du Mexique. Barack Obama s'est rendu hier sur les plages de Louisiane. Il a tenté de rassurer les habitants de cet état le plus touché par la marée noire. Le suspense reste intense à Roland-Garros. On attend la fin du match entre Aravane Rezaï et la russe Nadia Petrova. Les deux joueuses étaient au coude à coude hier soir lorsque le match a dû être interrompu à cause de la nuit. Marion Bartoli affrontera elle l'israélienne Sahar Pir. Quant à Joe Wilfried Tsonga, il s'est imposé hier dans la douleur en 4-7 face au néerlandais Thiemo de Backer. En rugby, on prend les mêmes et on recommence. Finale du top 14 ce soir au Stade de France. Même affiche que l'année dernière, Perpignan affronte Clermont à partir de 20h45. Et puis un mot des Bleus pour terminer qui sont à Sousse en Tunisie. Ils se préparent avant leur deuxième match amical de demain avant la Coupe du Monde. Vous écoutez BFM Radio, il est 12h30. Et dans un instant, on retrouve BFM Academy avec Nicolas Dose.
Tous vos logiciels sont sur télécharger.com. 0% virus, 100% légal. Télécharger.com, le site numéro 1 du téléchargement. Un service de 01net.
FNAC, en ce moment, tout le monde est gagnant. Du 28 au 30 mai, la FNAC offre aux adhérents 10 euros de chèque cadeau FNAC tous les 100 euros d'achat. C'est le moment d'être adhérent. Offre réservée aux adhérents FNAC, non cumulable, voire conditions en magasin ou sur FNAC.com. FNAC, agitateur de curiosité.
Vincent Beaufils, directeur de la rédaction de Challenge.
Après l'iPod et l'iPhone, Steve Jobs arrive en France avec sa troisième révolution, celle de l'iPad, et promet aux éditeurs de sortir du piège du gratuit. Challenge décrypte ce business model et propose sa sélection des meilleures applications. Des dizaines d'applis, amusantes ou simplement utiles, sont dans Challenge.
BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, Eve Chégaray et Sylvain Aurébi.
Et on retourne un instant vers le portail des épicuriens.
BFM Academy 2010, la mouche du coach.
Voilà, c'est ce que j'appelle le Facebook des gastronomes, le premier réseau social autour d'une table. Club des gourmets en ligne, ça je crois que c'est une formule de Maria Mingard, hein, qui est donc la co-créatrice avec sa sœur Sarah de myprivatedinner.com. Je veux participer à un dîner organisé par un membre du site, je peux le faire. Je veux organiser moi-même un dîner et inviter les membres du site, je peux le faire. Tous ces gens sont inscrits gratuitement sur le site et je vais fixer le prix du dîner que j'ai décidé d'organiser. L'argent sera collecté par myprivatedinner et reversé donc sur mon compte tout simplement, et ensuite je vais pouvoir donner un lieu de rendez-vous qui sera envoyé par SMS ou par email aux gens qui auront décidé de participer à ce dîner. Il y a combien de personnes au dîner en moyenne?
On a une quinzaine de dîners par mois.
Ouais. Et alors donc, on se posait la question et on n'avait pas apporté la réponse dans la première moitié de l'émission. Vous dites, on ne va pas forcément se retrouver dans un dîner privé avec des gens qu'on ne connaît pas. On peut très bien l'imaginer avec des gens qu'on connaît. Et à ce moment-là, quel intérêt de passer par un site comme le vôtre?
Alors,
s'ils sont des copains.
On sait aujourd'hui que sur le web, ce qui fonctionne, c'est de fournir du contenu. C'est-à-dire que on le sait, énormément de sites, ce qui marche aujourd'hui, c'est souvent les blogs, effectivement, qui ont des bonnes adresses, des bonnes infos, des bonnes astuces, etc. Nous, aujourd'hui, avec My Private Dinner, c'est un peu ce qu'on fournit. C'est-à-dire que l'objectif principal du site, c'est effectivement de permettre à des personnes de se rencontrer autour d'une bonne table. C'est toujours plus sympa de se rencontrer autour d'une bonne table que...
Une table dégueulasse, oui.
Qu'autour d'un verre à deux personnes, par exemple. Mais c'est aussi de fournir à nos membres du contenu autour du dîner parfait. Comment créer son dîner parfait aujourd'hui? C'est très difficile parce qu'aujourd'hui, beaucoup de sites web fournissent des recettes, des conseils d'art de la table, etc. Mais c'est très éclaté. Nous, avec My Private Dinner, vous recevez donc toutes les semaines par newsletter, une fois que vous êtes inscrit, une compilation en fait de effectivement ce que va être votre dîner parfait du week-end ou de la semaine ou à une date que vous avez choisi avec une astuce culinaire.
Ce qui me frappe, c'est que tout le monde ait le temps de consulter ce genre de choses, ces newsletters. C'est...
Oh, ça se lit rapidement. Consulter,
oui, parce qu'une fois que vous le recevez, de toute façon, vous lisez. C'est pas très long, c'est le principe des newsletters. Effectivement, c'est qu'on a un taux de clic.
Vous avez des produits d'appel en fait qui incitent les gens à avoir malgré tout envie d'aller sur un site comme le vôtre pour vivre ces expériences culinaires. Voilà. Et ce qui vous permet d'avoir cette base de données ensuite vous monétiser auprès de vos anciens partenaires, ceux qui vendent du salé pour les clients, pour les membres qui aiment les clients l'horreur, les membres qui aiment le salé et ceux qui aiment le sucre. Bon, vous avez compris la suite. Juste deux, trois mots et je laisse la parole à Sylvain Aurébi et Chegaret. Donc vous et votre sœur Sarah, puis il y a un web marketeur qui est là également, un développeur. Il y aura des embauches cette année, 3 si tout va bien. 170 000 euros de chiffre d'affaires en 2009 et presque un peu moins du double prévu cette année, 300 000 euros prévu cette année. Sylvain Aurébi et Chegaret.
Bon, mais moi, comme d'habitude, je me suis inscrit sur le site pour voir comment ça fonctionnait, et peut-être être invité à un dîner, un bon dîner. Alors, on m'a proposé quelques questions. Je suis un très mauvais client parce que j'ai répondu à aucune question. J'ai dit que je répondrai plus tard. Donc, je suis pas bon pour votre base de données, mais j'ai regardé les questions. Donc, d'où vient mon goût pour la cuisine, mon plus grand acte de gourmandise, ce que j'emporterai sur une île déserte. Alors, quand j'entends ce que vous me dites, quand vous voulez bâtir votre base de données, on comprend les questions. Ce que j'emporterai sur une île déserte, si la personne répond à un gâteau au chocolat, ben on sait que
exactement.
Votre chocolatier pourra lui envoyer une offre. Mon délit de mauvais goût le plus inavouable. Alors je ne sais pas comment vous allez utiliser cette information. Bref, on pose tout un tas de questions qui sont très claires. Les hôtes et les invités sont évalués. Il y a des petites étoiles, parce qu'une fois que vous avez été dîner chez quelqu'un, on dit bah, c'est un pauvre type, il est inintéressant, puis on vous met une étoile. Et puis si on vous trouve un invité sympathique, on vous met 5 étoiles. Un hôte excellent, vous avez aussi une notation. Donc c'est plutôt bien fait. J'ai pas très bien compris finalement l'économie qui est derrière tout ça. Parce que c'est vrai que la plupart des gens peuvent s'inscrire, ne pas remplir le questionnaire, refuser de recevoir les offres, ce qui a été mon cas. Refuser de recevoir les offres. Donc moi je suis le mauvais client pour vous.
Le boulet, comme je disais.
Je suis le boulet. Alors je ne sais pas très bien comment vous allez arriver à bâtir une véritable base de données qui vous permettra de l'exploiter auprès de vos partenaires.
Aujourd'hui, sur les 7000 membres, on a à peu près 4000 membres qui sont hyper actifs. C'est-à-dire qui ont rempli leur formulaire, qui jouent le jeu.
Et qui reviennent et qui reviennent,
qui créent des événements, qui participent, etc. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc c'est avec ça qu'on crée notre base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est non pas de créer du trafic et d'avoir, je vais pas vous parler aujourd'hui des millions de membres qu'on va avoir dans un an. C'est pas ce qui nous intéresse. On cherche pas non plus la rentabilité. On cherche la croissance et surtout la clientèle qualifiée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, c'est par le bouche à oreille. Donc, on n'a pas envie de recevoir des personnes qui n'ont pas envie de jouer le jeu. Donc, nos membres jouent le jeu parce qu'ils sont venus, qu'ils ont envie d'y être et qu'ils ont envie de profiter de ce qu'on leur propose sur notre site.
Vous avez une idée des membres que vous avez, la moyenne d'âge?
Oui, c'est entre 25 et 40 ans.
D'accord. Et c'est tout le monde a un boulot, un bon boulot, est urbain, enfin c'est ça.
On a majoritairement des Parisiens, on a aussi beaucoup de provinciaux et on a également des Allemands, des Belges qui ont connu notre site par des communiqués de presse ou par le bouche à oreille, peu importe. Mais effectivement, ce sont souvent des personnes citadines, une clientèle qui a un certain pouvoir d'achat et qui a envie aussi de rencontrer des personnes.
Alors moi je trouve que votre détermination est très accrocheuse. Je suis assez d'accord avec Sylvain, on peut se poser encore certaines questions sur l'avenir de votre concept ou voilà, on a envie de voir comment ça va évoluer. Bon, d'abord on est au début hein, malgré tout, même si il y a quelques mois déjà derrière vous, mais il y a quelque chose de très accrocheur parce que vous êtes créé un univers, vous l'illustrez, hein, vous avez un certain plaisir, je pense, à parler de cet univers gourmand, ça se sent. Il y a le côté faire équipe avec sa sœur, un truc qui est toujours sympa. Alors, c'est probablement plaisant pour vous, mais il se trouve que en termes de communication, de marketing, ça passe bien, ça attire l'attention, ça retient aussi, ça aide à mémoriser. Vous êtes très décidé, vous prenez certainement une partie de vos décisions à l'affect, mais encore une fois, c'est quelque chose qui va bien avec votre univers. Donc, il y a quelque chose comme ça. Il y a un univers voilà, autour de vous qui force plutôt l'intérêt. Et je crois que vous êtes vous-même en train de faire les choses pas à pas et chaque mois de regarder l'évolution des choses et de voir les opportunités et d'avancer comme ça. Et je crois que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. On n'a pas toujours un plan précis au millimètre près de ce qui va se passer. Il faut juste que vous soyez probablement bien conseillé ou bien éclairé au moment où vous prenez des décisions significatives. Quoi. Mm-hmm. Est-ce que ça représente votre réalité, ce que je vous dis là ?
Tout à fait. Alors le côté affect, effectivement, ça m'arrive souvent de prendre des décisions sur le feeling. C'est le monde de la gastronomie, c'est ça. Hein. Je le vois, tout, que ce soit des journalistes ou des chefs, on fonctionne souvent avec ça, c'est-à-dire c'est ce qu'on aime, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas, donc c'est vrai que j'avance au fur et à mesure avec ça. Après, sur l'avenir du site, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je cherche pas à faire plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires tout de suite, c'est pas l'objectif. Je cherche vraiment à monétiser en fait la base de membres ultra qualifiés que j'ai, parce que je crois qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne sur le web, c'est très compliqué, c'est un vrai métier à part entière. Et ce qui fonctionne aujourd'hui, ce sont des sites qui offrent du contenu et qui ensuite ont la possibilité de le monétiser aux entreprises. Les réseaux communautaires, il y en a des tonnes qui se créent tous les jours. Facebook et Twitter, on sait qu'ils ne sont pas rentables. Par contre, ils sont valorisés des millions d'euros. Donc, ça évolue. C'est-à-dire que je crois que personne n'a la clé. J'ai juste trouvé le modèle en disant, voilà, on recrute des membres, le site est gratuit, c'est un modèle économique gratuit. Derrière, on propose des services aux entreprises, petites marques ou grandes marques, pour créer du trafic et leur donner une base de membres qualifiés. Donc, on va voir. Le modèle est comme ça aujourd'hui. Peut-être que ça évoluera, peut-être pas, peut-être que c'est la clé.
Et ça pourrait être quoi, là ?
C'est un peu le modèle mille merci, hein, finalement, d'aller capter de la clientèle, en fait.
Oui, et d'autres, il y a une newsletter qui s'appelle My Little Paris, qui est un truc très
exactement
sympa aussi.
Dans le domaine du sucre salé.
Je voudrais juste savoir, la preuve tangible que vous aurez réussi, ce serait quoi pour vous ?
Ce serait de multiplier le nombre de partenaires le nombre d'événements culinaires avec des marques.
Oui, ce qu'il faut, c'est pour multiplier le nombre de partenaires, parce que je me mets dans la peau de la boîte qui va être votre partenaire, mm-hmm. Il faut que vous ayez beaucoup de membres, donc il faut que vous alliez chercher énormément de membres, et on sent pas tellement que ce soit votre priorité aujourd'hui, parce que...
Alors, évidemment, on continue à recruter du membre, hein. Je vais pas vous dire qu'on s'est arrêté là à 7000, etc. En revanche, on cherche pas de la masse, on cherche vraiment de la clientèle ultra qualifiée, donc elle est plus longue, finalement, à avoir. Hein. Et puis, sur une marque, j'ai envie de vous dire que... vous avez déjà organisé des événements, j'imagine, Cuscus Meety. Vous faites pas un événement à 200 personnes, généralement vous ciblez plus ou moins votre clientèle, vous faites un événement à 10, 15, 20. Aujourd'hui, les marques, et même certaines grandes, nous ont déjà contactés. C'est pour soit faire connaître un produit, soit travailler sur une cible particulière, soit faire connaître leur marque ou un nouveau produit. C'est vraiment un focus groupe, ça arrive.
Vous
ne
pensez pas qu'il faudrait proposer une base de données aux marques qu'elles peuvent elles-mêmes utiliser sur le web pour leur site internet? Et là, il faudrait des milliers, des dizaines de milliers de contacts, plus que le one-to-one que vous proposez, qui est quand même, bon, alors avoir 10, 15 personnes, c'est bien, mais organiser tout un événement pour rencontrer 10, 15 personnes, c'est pas forcément très rentable. Est-ce qu'il faut pas passer vers un modèle qui soit un modèle vraiment web, avec faire connaître une marque directement par son site internet, lui permettre de vendre des produits directement à vos contacts?
On peut y arriver. Je pense qu'on peut y arriver. Il faut aussi, à un moment donné, effectivement, créer du trafic. C'est-à-dire qu'on peut, demain, je peux lancer des campagnes emailing et avoir 100 000 personnes sur mon site. Mais le problème, c'est qu'elles ne seront pas qualifiées. Demain, j'ai une marque qui vient me voir et qui me dit j'ai besoin de X centaines de personnes et qu'au final, on se retrouve avec 10 personnes qui viennent. Ça marche
donc
pas.
Donc, ça prend du temps.
Ça prend du temps.
Vous avez vu, c'est fascinant. Hein, dans cette dernière partie d'émission, on s'est mis à plus du tout parler des dîners privés pour parler de toute autre chose qui, visiblement, effectivement, est le nerf de la guerre du business de myprivatedinner.com. Donc, qui a été fondé par Maria Mingard et sa sœur Sarah. 300 000 euros de chiffre d'affaires prévu cette année. On espère que vous les atteindrez.
BFM Academy 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en eux?
Allez, on marque une dernière pause et on retrouve Quentin de Surmont avec Peplum, le site qui organise, qui gère 100% sur mesure les vacances de ses clients.
BFM Weekend.
Bonjour, c'est Thierry Lhermitte, je suis le parrain de la Fondation pour la Recherche Médicale. Je vous invite à vous mobiliser pour combattre toutes les maladies à nos côtés. Depuis plus de 60 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale agit dans tous les domaines de la recherche. Maladies neurologiques, maladies infectieuses, maladies cardiovasculaires, les cancers, elle sait où sont les urgences, elle connaît les besoins. Pour que la recherche bénéficie à tous, la Fondation a besoin de vous. Faites un don sur frm.org.
Journée de la Fondation pour la recherche médicale du 28 au 30 mai.
BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, Eve Chégaray et Sylvain Aurébi.
Et c'est le dernier quart d'heure de la saison avant la demi-finale la semaine prochaine. C'est la dernière émission effectivement de cette saison 2009-2010. Vous attendez un peu car il y a encore un candidat, le dernier de l'année, avant d'aller sur le bfmradio.fr pour les départager.
BFM Academy 2010, la mouche du coach.
Ce candidat, c'est Quentin de Surmont avec Peplum, ce site qui organise, qui gère 100% sur mesure. Attention, pas la carte du tout. Il n'y a aucune brochure, il n'y a aucun truc prévu d'avance, il n'y a aucun package, il n'y a aucune offre préparée. Non, non. Le client est un bon client, solide, qui a une exigence, c'est de passer des vacances mémorables, inoubliables, inouïes, d'une qualité incroyable, avec un niveau de service que vous ne soupçonnez même pas, avec l'ensemble de sa famille. Il n'a absolument pas le temps de les organiser, ces vacances-là. Évidemment, ça va lui coûter un peu de sous, c'est tout simplement du luxe. C'est Peplum qui s'occupe de ça, peplum.fr. Ils sont là du début jusqu'à la fin. Tout sera réalisé, souvent en dehors des sentiers battus. Et donc, je le disais, avec des termes comme jet, hélicoptère, yacht, croisière. Enfin bon, vous imaginez tout ce qu'il peut y avoir derrière. Il est en train de sortir des billets de banque pour me payer parce qu'il trouve que je fais une merveilleuse com de sa boîte. Mais attendez, justement, c'est la mouche du coach qui va commencer, Quentin de Surmont. Donc, vous avez 76% du capital aujourd'hui. Il y a 6 personnes, 2 CDI, 3 collaborateurs et vous notamment. Il y aura des embauches en France, 5 cette année, une quinzaine en Europe. Et là, il faut reconnaître que les niveaux de chiffre d'affaires sont assez élevés par rapport aux standards de BFM Academy, puisqu'on est à 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires en 2009 et sans doute 2,4 millions d'euros en 2010, avec l'année de tous les dangers, j'ai envie de dire, puisqu'il nous disait que c'est l'année de l'équilibre. Donc beaucoup de choses se jouent jusqu'aux 3,6 millions d'euros qui sont prévus pour l'année 2011. Et cette fameuse règle des 3-10, je vous la rappelle parce qu'elle est belle. Voilà, on a 10 fois moins de clients que les autres, oui, mais ils rapportent 10 fois plus que les autres et on leur apporte 10 fois plus de services que les autres. Voilà, j'ai à peu près résumé l'activité de Peplum. Je vous laisse la parole, Sylvain Aurébi et Eve Chégaray, pour nous dire un peu comment vous avez vécu cette aventure, cette histoire. La conciergerie
très
voyage.
Très bien, Nicolas. Alors moi, il me reste plusieurs questions. Je vais vous en parler. Il y a quand même une chose que je remarque, c'est que votre équipe est importante et que peut-être... j'aurais aimé en entendre parler un peu plus. Hein. On a parlé rapidement, mais vous avez été interrompu par ces messieurs trublions.
Posant des questions absolument débiles.
Vous étiez en train de nous parler des 4 métiers de vos collaboratrices, et puis on s'est interrompu après le 3e, alors je ne vais pas vous obliger à revenir sur ça, mais cette équipe-là, elle est importante, parce que là, si on va chercher du sur-mesure, on est vraiment dans un rapport de personne à personne, et je crois que quand on dépense ce budget-là, on a envie de parler à quelqu'un vraiment qualifié, mais qui a aussi une culture générale, etc. Donc, est-ce que c'est voulu que vous ne citiez pas ces personnes? Quelle est votre position sur le sujet?
Les personnes qui travaillent dans l'équipe sont toutes sur le site internet. Donc, on en parle, il n'y a aucun souci. Effectivement, c'est très important. Je pense qu'on a 2 actifs stratégiques fondamentaux. Le premier, c'est la marque qui capture tout ce positionnement et ce que vous venez de dire. Et le deuxième sont les hommes ou les femmes. Dans cet univers du tourisme, il y a beaucoup de femmes, et c'est très bien, qui mettent en musique ce positionnement et cette stratégie d'entreprise. Et donc, vous prenez l'exemple de Véronique Chappé, par exemple. Elle a 25 ans de métier dans le tourisme. Elle a travaillé à la fois dans l'univers du culturel, dans l'univers du luxe, dans les îles. Elle a une connaissance du monde qui est assez exceptionnelle et du luxe qui est assez incroyable. Alors, je vous rappelle les 4 métiers dont je parlais. C'était être capable de faire de la production sur mesure. C'est pas simple. Être capable de gérer une relation client avec des clients qui sont pas toujours faciles à joindre, avec qui on parle de voyage parfois par SMS, parce qu'ils sont très très occupés, ou avec d'autres personnes, leurs assistantes ou leurs épouses. Ensuite, la capacité à faire de l'événementiel pour une famille. Finalement, c'est un petit peu ça. Hein. Et puis enfin, cette capacité à proposer des événements culturels, une valeur ajoutée culturelle. Parce que voyager à l'autre bout du monde pour rester sur la plage, c'est bien, mais c'est un peu dommage.
Les demandes qu'on vous fait, en tout cas.
Ça arrive, mais on va toujours essayer de faire une proposition de rencontre ou d'art ou quelque chose qui va élever le débat.
C'est ce qui est intéressant sur votre site que j'ai bien regardé en détail, c'est effectivement ce côté culturel. On sent qu'il y a une véritable importance pour vous. Vous n'offrez pas le séjour à la plage, tout simplement, mais il y a toujours derrière ça, soit l'humanitaire, soit le culturel, et des découvertes particulières. Le compliment que je peux vous faire, c'est qu'on se sent en sécurité sur votre site et on a l'impression qu'en utilisant Peplum, ben, on va être bien traité. On a l'impression qu'il y a du professionnalisme derrière tout ça. Je pense que vous avez un bon positionnement, ultra niche. Hein. Mais alors, une petite question, avoir 10 fois plus de clients, 10 fois moins de clients qui rapportent 10 fois plus, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si vous aviez 10 fois plus de clients qui rapportaient 10 fois moins, vous feriez le même chiffre d'affaires. Donc au bout du compte, quel est le modèle derrière tout ça? Parce que vous allez être comme une autre agence de voyage, vous faites 100 fois 10 000 euros. Mais oui, mais faire 100 fois 10 000 euros, 10 fois 100 000 euros, ça fait toujours un million au bout du compte. Alors qu'est-ce que vous avez de différent à la fin de l'année?
Sylvain, c'est le troisième 10. C'est le troisième disque que vous oubliez. C'est pour passer 10 fois plus de temps à servir chaque client. C'est essentiel. C'est
oui, mais comment, ça, qu'est-ce que ça vous rapporte de plus mais qu'une c'est... agence classique? Non, alors, mais... en termes de service, je suis d'accord avec vous, c'est formidable et moi, j'adorerais utiliser vos services.
C'est un objectif, un moyen, le temps.
Je vous réponds tout de suite. C'est quoi la vertu? La vertu, c'est que on a beaucoup plus de fidélisation à la clé.
Donc vos clients
en 2009,
reviennent.
Et là, ce sont les chiffres qui parlent.
Vous parlez
en 2009,
de
deuxième année d'exercice. Bon, la première année était un peu plus longue que 12 mois. Nous avons 50% de nos clients, donc des gens qui ont acheté un voyage chez nous, qui étaient des repeaters. En deuxième année...
Des gens qui reviennent donc. Hein.
Oui, des gens qui avaient déjà fait au moins un voyage chez nous. Et ça c'est très important parce que c'est vraiment le cœur de notre métier, c'est de créer cette fidélisation pour que je dorme un petit peu mieux la nuit et pour que je me dise en attaquant à moi que tiens, j'ai déjà peut-être 50% du chiffre d'affaires qui est déjà fait.
C'est-à-dire que ça va devenir un automatisme de vous appeler pour vos clients. On a un voyage à organiser, on ne se pose pas de questions, on appelle Peplum.
C'est ce qu'on veut vraiment que tous nos clients comprennent et on y arrive. On y arrive. On a quelques clients qui sont, j'ai envie de dire, addicts maintenant au service
Peplum. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quel genre de retour vous avez? Vous n'avez peut-être pas un questionnaire banal comme on a dans un hôtel Mercure de
rien,
base.
Rien ne peut être banal chez Peplum, visiblement.
Non, alors, les retours, d'abord, c'est très important, c'est une instruction qu'on donne à nos clients avant de partir. N'attendez pas la fin du voyage pour nous appeler. Vous nous appelez pendant le voyage, s'il y a le moindre bug, tout de suite. On peut réagir immédiatement, on peut transformer un tout petit souci pendant le voyage, on peut le résoudre immédiatement. Si vous attendez la fin du séjour, ça peut devenir un cauchemar. Donc ça, c'est très très important. Et souvent, alors le retour se fait par un petit déj en face au Phuket ou se fait au téléphone.
Ouais, c'est très
organisé
tout ça. Hein.
Bah,
oui.
Et c'est très important.
C'est localisé.
C'est le moment où on découvre des choses encore plus précises du client.
Mais sur votre prestation, ils vous disent, est-ce que vous avez un retour qualitatif? Est-ce que vous dites, on est content? Ou est-ce qu'il suffit qu'ils recommandent pour que vous le sachiez?
Oui, alors, on a un retour. Moi, je l'ai. C'est pas moi qui gère cette relation avec nos clients. Je l'ai parce que certains des clients, je les connais ou j'essaie de les voir de temps en temps. Ils me le disent. Et le retour est très bon. Le retour est très, très bon. Et plus que le retour, ce qui compte, c'est finalement, pas seulement les mots, c'est la réalité, 50% de repeat.
Et ils en parlent autour d'eux.
Vous proposez beaucoup de services, il y a effectivement de la conciergerie, il y a du voyage, il y a des chalets, il y a des locations de maisons, il y a des photos magnifiques sur le site. Le site est vraiment très bien fait. J'ai un petit bémol, c'est que tout le long du site, à chaque endroit, vous mettez le mot « luxe », il est 15 fois par page. Voyage de luxe, séjour de luxe, vacances de luxe, yacht de luxe, jet privé de luxe. Et moi, ce qui me gêne, mais vous faites la tête là parce que vous pensez que je vais vous faire que des compliments. Mais il faut de temps en temps vous dire les choses pour vous aider à améliorer votre service. Et ce qui me gêne, c'est que les gens qui ont du luxe, qui recherchent le luxe, ne veulent pas qu'on leur mette à la figure ce mot luxe à chaque fois parce que pour eux, c'est le quotidien. Comprenez ça, le mot luxe n'impressionne que les gens qui n'en ont pas.
Il est acide.
Voilà.
Ah, c'est ça,
donc je,
Sylvain,
je...
vous avez raison. Vous avez raison. Le mot luxe aujourd'hui est galvaudé. Mais c'est pour ça que chez Peplum, quand on l'utilise dans notre contexte, on essaie de lui redonner un sens. C'est quoi le luxe pour nous? C'est ce sur-mesure pur. C'est accepter que chaque client ait son envie à lui propre et de la mettre en musique. C'est ça le luxe pour nous. Bon, c'est le service du luxe, ce n'est pas un produit de luxe, c'est un service du luxe, c'est très différent, je tiens à le souligner.
Vous êtes un redoutable marketeur.
Pas mal la sortie de crise
très bien,
là, hein,
très
là,
bien, très bien.
En deux phrases.
Moi, je
il est
beaucoup.
Content de lui, il sourit.
Je crois beaucoup à ce que dit Quentin, parce que aujourd'hui, et je citerai le livre de notre ami Jean-Marc Vittori qui s'appelle L'effet sablier.
L'effet sablier chez Grasset.
Et où Jean-Marc Vittori explique que demain, il n'y aura plus que le très haut de gamme et le très bas de gamme et qu'au milieu, le milieu va disparaître. Donc je crois que vous avez raison d'être sur cette niche très haut de gamme, que vous avez vraiment les moyens de l'exploiter. Alors malheureusement, vous arrivez à un moment de crise qui affectera probablement pas, ou on l'espère, les gens qui ont recours à vos services, mais ça va être quand même difficile pour les 2-3 prochaines années.
Écoutez, en 2009, nous avons doublé notre chiffre d'affaires. Je pense que c'est un modèle anti-crise.
Oui, alors moi j'ai une remarque à vous faire, c'est que je trouve que vous avez une qualité de présence, vous êtes particulièrement à ce que vous faites, alors vous prenez quelques notes, vous êtes vraiment là, vous avez une bonne humeur, et bon, ça fait plaisir de le dire, on est en radio, donc on ne voit pas, on a une longue liane brune, la personne de Mariam aujourd'hui, absolument charmante, et vous êtes plein de bonne humeur, vous nous écriviez dans votre fiche d'inscription que tout vous plaît dans l'entrepreneuriat. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous picousez à l'optimisme comme ça pour y croire vous-même, mais ça a l'air très sincère et c'est aussi très porteur. Je pense que c'est sympa d'aller parler, même avec de gros moyens, d'aller parler à une agence où on a des gens en face qui sont plutôt bien lunés.
Merci.
On a
merci.
Pas mal de VIP quand même du business qui viennent sur BFM. Je vais leur demander qu'ils leur organisent les vacances en coulisses la prochaine fois qu'ils viennent. On a fini là avec les vacances de luxe, le voyage de luxe, totalement sur mesure et pas à la carte du tout, mais totalement sur mesure.
On a terminé. Moi, je rebondirai sur ce que disait Eve pour dire que je trouve que Quentin a beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Et on voit, il est dans le superlatif constamment, dans sa fiche. Tout est très excessif et il aime ce qu'il fait, on le sent. Je crois que c'est important. Oui, mais c'est un tempérament. Mais moi, c'est un tempérament que j'aime bien et que je soutiens. Et je crois que ses clients aiment bien ça aussi.
BFM Academy 2010, le 26 juin. Il n'en restera qu'un.
Alors avant le 26 juin, il n'en restera qu'un au terme de cette émission. Ça va se jouer entre Mariam Ingar avec myprivatedinner.com, ce que j'ai appelé le Facebook des amateurs de bons repas. Mais je vous invite quand même à réécouter peut-être en podcast la fin de l'émission où vous avez quand même beaucoup plus de vision sur ce que les deux sœurs Mariam et Sarah ont véritablement en tête en créant cette entreprise qui est une véritable entreprise. Et puis Quentin de Surmont avec Peplum, ce site qui va prendre totalement en main et créer, fabriquer du sur-mesure, des vacances de luxe, mais au sens du service, le luxe pour des clients, des très gros clients, et l'ensemble de leur famille. Peplum.fr, c'est donc l'adresse pour le site de Quentin de Surmont. On va terminer cette émission, comme chaque semaine, en se tournant vers nos anciens candidats, des quelques fois saisons passées, et c'est le cas encore aujourd'hui, puisque, Eve, on va appeler tout de suite
François Xavier Tanguy,
bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, il est créateur de DreamCheck, François-Xavier Tanguy. Il était venu nous voir les 7 et 8 mars 2009, c'est ça. Voilà, 7 et 8 mars 2009. DreamCheck, c'est un site qui propose de créer un rêve et de le réaliser. Ça fait rêver. Hein. La plateforme qui va aider l'internaute à faire que son rêve devienne tout simplement une réalité. Entreprise créée en mars 2008, installée à Paris 10e. L'adresse www.dreamcheck.com. Qu'est-ce que vous nous racontez aujourd'hui, François-Xavier Tanguy?
Ben bonjour à tous, effectivement, DreamCheck grossit. À l'heure actuelle, on a une communauté de près de 15 000 personnes, donc dans différents domaines, entrepreneurs, voyages, développement durable, écologie, solidaire. Et notre but, effectivement, est de faire avancer les idées, les envies, les rêves et les projets des gens. Et pour cela, on a une belle actu à l'heure actuelle. Nous allons lancer une bourse du rêve de l'entrepreneuriat avec un prix de 30 000 euros. Et dont le but est d'aider concrètement les entrepreneurs qui ont un rêve de business ou de création d'entreprise.
Quels sont les critères, François-Xavier ? Quels sont les critères pour gagner la bourse ?
Alors, on a des critères bien évidemment économiques, la solidité du business model, mais également des critères un peu plus social ou environnemental. On va favoriser des projets innovants sur le développement durable, sur la solidarité, sur le côté social. On veut vraiment mettre en avant les entrepreneurs qui font un peu bouger le monde ou les choses.
Et ça s'adresse aux entreprises qui n'existent pas encore, uniquement les projets ?
Alors ça s'adresse à deux populations, les porteurs de projets qui n'ont pas encore créé leur entreprise, mais également les entreprises qui existent depuis un an ou deux ans par exemple, et qui sont sur le domaine du développement durable, des clean tech, et qui veulent favoriser l'entrepreneuriat un peu social ou du développement durable. C'est vraiment ces critères qu'on favorisera.
On s'inscrit sur votre site ? Comment ça se passe ?
Alors, tout est sur notre blog. Tout est expliqué blog dreamcheck.com. Et en gros, on demande à la fois effectivement de s'inscrire sur dreamcheck.com, mais également de remplir un petit questionnaire de 5-6 questions et de faire ce qu'on appelle un pitch, un dream pitch, de présenter en vidéo son projet et sa vision en 3-4 minutes.
Bon, on redonne l'adresse, François-Xavier Tanguy, blog dreamcheck.com.
Voilà, exactement.
C'est ça. Bon, écoutez, bravo, merci d'avoir témoigné. L'entreprise va bien, vous gagnez de l'argent?
Là, mais justement, on gagne de l'argent en associant des marques à notre communauté. Et là, c'est un partenariat qu'on fait avec le CJD, Centre des jeunes dirigeants, et Ecophilos, qui sont venus nous voir et qui ont exactement voulu aider les entrepreneurs. Ils n'avaient pas cette base de données.
On gagne de l'argent en associant des marques à notre communauté. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. François-Xavier Tanguy avec DreamCheck, merci d'avoir témoigné. DreamCheck.com, cette émission est désormais terminée. Vous allez sur le site bfmradio.fr pour départager. Maria Mingard avec myprivatedinner.com face à Quentin de Surmont avec Peplum, peplum.fr. À la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est la demi-finale, la deuxième demi-finale de l'année. On aura notre deuxième finaliste au terme de cette émission. Et puis, on a une grande finale fin juin. Mais d'ici là, je vous en reparle.
Maintenant, votez sur bfmradio.fr pour élire le vainqueur de BFM Académie.